Je n'aurais jamais cru reprendre ce récit. Mais me voici avec devant moi ces pages écornées, pliées en quatre. Voici que j'en ajoute trois ou quatre, prises à un bloc tout neuf. Un bloc que j'ai acheté dans une boutique. Je suis tout simplement entré dans une boutique à Portland, rue du Congrès, et je l'ai acheté. Je croyais avoir mis le point final à cette histoire dans une cellule de Shawshank, par un jour blême de l'hiver 1976. Aujourd'hui, c'est la fin juin 1977, et je suis assis dans une petite chambre d'un hôtel bon marché, le Brewster à Portland, et j'écris. La fenêtre est ouverte et laisse entrer le bruit de la rue qui me semble énorme, excitant, intimidant. Je dois jeter sans cesse un coup d'œil à la fenêtre pour être sûr qu'elle n'a pas de barreaux. La nuit, je dors mal, parce que le lit, si pauvre que soit la chambre, me paraît trop grand et trop luxueux. Je me lève d'un coup chaque matin à 6h30, désorienté, apeuré. Je fais de mauvais rêves. L'impression folle d'être en chute libre. Une sensation aussi terrifiante que stimulante. Qu'est devenue ma vie? Vous ne vous en doutez pas. Je suis en liberté conditionnelle. Au bout de 38 ans d'audience routinière et de refus routinier, j'ai tué trois avocats sous moi pendant ce tiers de siècle, on m'a accordé cette liberté. Ils ont dû se dire qu'à 58 ans, finalement, j'étais assez usé pour être inoffensif. J'ai vraiment failli brûler le document que vous venez de lire. Ils fouillent les libérés sur parole aussi soigneusement qu'ils fouillent les poissons frais, les arrivants. Outre qu'ils contiennent assez de dynamite pour me garantir un demi-tour accéléré et 6 à 8 ans supplémentaires à l'intérieur, mes mémoires recèlent autre chose. Le nom de la ville où je crois qu'Andy Dufresne est installé. La police mexicaine est ravie de coopérer avec la police américaine. Et je ne voulais pas que ma liberté, ou ma répugnance à perdre une histoire qui m'avait coûté tant de travail et de temps, soit au prix de la sienne. Alors je me suis souvenu du moyen choisi par Andy en 1948 pour introduire $500, et j'ai sorti mon récit par le même canal. Pour être tranquille, j'ai patiemment réécrit chaque page mentionnant Zihuatanejo. Si on avait trouvé ces papiers lors de la fouille extérieure, comme on dit à Schenck, j'aurais exécuté mon demi-tour. Mais les flics auraient été chercher Andy à Las Intrudres, une ville de la côte péruvienne. La commission des libérations sur parole m'a trouvé un emploi d'assistant magasinier au grand supermarché Foodway sur l'avenue Spruce, au sud de Portland. Je rejoins donc les rangs des commis vieillissants. Il n'y a que deux sortes de commis de magasin, vous savez, les vieux et les jeunes. Personne ne regarde jamais ni les uns ni les autres. Si vous faites vos courses au Foodway, c'est peut-être moi qui ai apporté votre sac dans votre voiture. Mais il vous a fallu les faire entre mars et avril 1977, parce que je n'y suis pas resté plus longtemps. Au début, je n'ai pas cru pouvoir m'en sortir à l'extérieur. Pas du tout. J'ai décrit la société pénitentiaire comme un modèle réduit de votre monde, mais je n'avais pas idée de la vitesse à laquelle vont les choses dehors. Les gens bougent à une vitesse folle. Ils parlent même plus vite et plus fort. C'est à quoi, de toute ma vie, j'ai eu le plus de mal à m'adapter. Et je n'en ai pas encore fini. De loin. Les femmes, par exemple. Depuis 40 ans que j'avais presque oublié qu'elles formaient la moitié de la race humaine, voilà que je me retrouvais dans un magasin plein de femmes. Des vieilles femmes, des femmes enceintes portant des t-shirts avec une flèche pointant vers le bas et la légende « Bébé est là ». Des femmes maigres, avec des seins qui pointent sous leur chemise. Une femme habillée comme ça, quand je suis tombé, se serait fait arrêter et examiner par des psychiatres. Des femmes de toutes les formes et de toutes les tailles. J'étais toujours à moitié en train de bander et je me traitais de vieux vicelard. Aller aux toilettes. Encore autre chose. Quand il fallait que j'y aille, besoin qui me prenait toujours 5 minutes avant la demi, je devais combattre l'impulsion irrésistible de le demander à mon patron. Savoir que je pouvais tout simplement y aller, dans ce monde extérieur trop brillant, c'était une chose. Adapter mon être le plus intime à cette donnée, après avoir dû demander au maton le plus proche sous peine de 2 jours de mitard, c'est autre chose. Mon patron ne m'aimait pas. C'était un jeune type, 26 ou 27 ans, et j'ai vu que je le dégoûtais plus ou moins. Comme vous dégoûterez un vieux chien servile, craintif, qui s'approche en rampant pour se faire caresser. Christ, Je me dégoûtais moi-même. Mais je pouvais pas m'en empêcher. J'avais envie de lui dire « Voilà ce que vous fait une vie entière en prison, jeune homme. Cela transforme en maître tout homme en position d'autorité, et vous-même en chien. Vous savez peut-être que vous vous êtes changé en chien, même en prison. Mais comme tous les hommes en gris sont aussi des chiens, cela paraît moins important. Dehors, si. Mais je ne pouvais pas le dire à un genou comme lui. Il n'aurait jamais compris. Non plus que mon Jap, un ex-marin bourru, grand et gros avec une immense barbe rousse et une bonne provision de blagues polonaises. Il me voyait environ 5 minutes par semaine. « Est-ce que tu évites les bars, Red ?» me disait-il quand il avait épuisé son répertoire. « Ouais, » je disais, et c'était tout jusqu'à la semaine suivante. La musique à la radio. Quand on m'a bouclé, les grands orchestres commençaient seulement à émerger. Aujourd'hui, on dirait que toutes les chansons parlent de baise. Tellement de voitures. Au début, je croyais risquer ma vie chaque fois que je traversais la rue. Plus encore, tout était étrange, effrayant. Mais vous avez peut-être une idée de ce que c'était, ou le petit bout de la queue d'une idée. Quand on est en conditionnel, n'importe quoi peut servir. J'ai honte de le dire, mais j'ai pensé voler du fric ou piquer des marchandises au Foodway. N'importe quoi pour retourner au calme, là où on sait tout ce qui va se présenter au cours de la journée. Si je n'avais jamais connu Andy, c'est probablement ce que j'aurais fait. Mais je pensais à lui sans arrêt, aux années passées à gratter patiemment le béton avec son casse-pierre pour retrouver la liberté. J'y pensais et j'avais honte, et je laissais tomber mon idée. Oh, vous pouvez dire qu'il avait plus de raisons que moi de vouloir être libre, de l'argent, un nouveau nom. Mais ce n'est pas vraiment cela, vous savez. Parce qu'il n'était pas sûr que sa fausse identité l'attendait encore. Et sans elle, l'argent resterait à jamais hors de portée. Non, ce dont il avait surtout besoin, c'était d'être libre. Et si je repoussais du pied cette liberté, ce serait comme si je crachais sur tous les efforts qu'il avait fournis pour la retrouver. Alors, pendant mes jours de repos, je me suis mis à faire du stop jusqu'à la petite ville de Buxton. C'était début avril en 1977. La neige commençait à fondre dans les champs, l'air à se réchauffer. Les équipes de baseball montaient au nord pour une nouvelle saison du seul jeu que Dieu approuve, j'en suis certain. Et chaque fois, je mettais dans ma poche une petite boussole. « Il y a un grand pré à Buxton », m'avait dit Andy. Et au nord de ce pré, une muraille rocheuse sortit tout droit d'un poème de Robert Frost. Quelque part au bas de ce mur, il y a un rocher qui n'a rien à faire dans une prairie du Maine. Une équipe est idiote, direz-vous. Combien de prés y a-t-il dans une petite commune rurale comme Buxton? 50? 100? D'après mon expérience personnelle, je dirais même plus. En ajoutant les champs cultivés qui étaient en herbe à l'époque où Andy est venu. Et même si je trouvais le bon, je ne le saurais peut-être jamais. Soit je pourrais ne pas voir ce morceau de lave noire, soit, plus probablement, Andy l'avait mis dans sa poche et emporté avec lui. Donc je suis d'accord avec vous. Une équipe est idiote, sans doute. Pire, dangereuse pour un type en conditionnel, car certains champs ont des pancartes « passage interdit ». Or, je vous l'ai dit, ils sont on ne peut plus ravis de vous renvoyer au trou à coups de pied au cul si vous faites un faux pas. Une équipe est idiote, de même que d'émietter pendant 27 ans un mur en béton. Et quand on n'est plus celui qui peut tout procurer, mais un vieux commis de magasin, il vaut mieux avoir un passe-temps pour ne pas trop penser à cette nouvelle vie. Mon passe-temps, c'était de chercher le rocher d'Andy. Alors je faisais du stop et je marchais sur les routes. J'écoutais les oiseaux, le murmure de l'eau dans les fossés. J'examinais les bouteilles découvertes par la fonte des neiges. Aucune de consignée, je regrette d'avoir à le dire. Le monde semble devenu terriblement économe pendant mon séjour en tôle. Et je cherchais les prairies. Je pouvais en éliminer la plupart du premier coup. Pas de murailles rocheuses. D'autres en avaient, mais ma boussole me disait qu'elles étaient orientées dans le mauvais sens. Je me promenais quand même dans celle-là. C'était une promenade agréable, et pendant ces sorties, je me sentais réellement libre, en paix. Un vieux chien m'a suivi un samedi. Et un jour, j'ai vu un chevreuil amaigri par l'hiver. Alors il y a eu un jour, le 23 avril, un jour que je n'oublierai pas même si je vis encore 58 ans. C'était un samedi après-midi. L'air était doux et je remontais ce qu'un gosse pêchant du haut d'un pont m'avait dit s'appeler la route du vieux Smith. J'avais emporté mon déjeuner dans un sac en papier du Foodway et je l'avais mangé assis sur un rocher au bord de la route. Quand j'ai eu fini, j'ai soigneusement enterré les restes, comme me l'a appris mon père avant de mourir, au temps où j'étais un mioche pas plus grand que le pêcheur qui m'avait indiqué la route. Vers 2 heures, j'ai trouvé un grand pré sur ma gauche. Il y avait une muraille rocheuse à l'autre bout, orientée à peu près vers le nord-ouest. J'y suis descendu en pataugeant dans la terre humide et je me suis mis à longer le mur. De sur son chêne, un écureuil m'a crié dessus. Aux 3/4 du chemin, j'ai vu le rocher. Pas d'erreur. Du vert noir lisse comme de la soie. Un rocher n'ayant rien à faire dans une prairie du Maine. Je l'ai regardé longtemps et j'ai eu peur de me mettre à pleurer sans savoir pourquoi. L'écureuil m'avait suivi et continuait à jacasser. Mon cœur battait à une vitesse folle. Quand j'ai cru avoir retrouvé mon sang-froid, je suis allé jusqu'au rocher. Je me suis accroupi. Mes genoux ont craqué comme un fusil de chasse et je l'ai touché. Il était réel. Je ne l'ai pas ramassé en pensant qu'il y aurait quelque chose dessous. J'aurais tout aussi bien pu repartir sans voir ce qu'il y avait. En tout cas, je n'avais pas du tout pensé l'emporter, parce que je sentais qu'il n'était pas à moi. J'avais même l'impression que d'arracher ce rocher à ce pré serait un vol de la pire espèce. Non, je l'ai seulement ramassé pour mieux le toucher, le soupeser, probablement pour me prouver sa réalité en caressant le grain satiné de la roche. J'ai dû regarder longtemps ce qu'il y avait dessous. Mes yeux le voyaient, mais mon esprit a mis quelque temps à les rattraper. C'était une enveloppe, soigneusement protégée par un sac en plastique pour qu'elle ne prenne pas l'eau. Avec mon nom écrit dessus, de l'écriture claire et lisible d'Andy. J'ai pris l'enveloppe et laissé le rocher là où Andy l'avait laissé, et son ami avant lui. Mon cher Red, si tu lis ces mots, tu es dehors. D'une façon ou d'une autre, tu es dehors. Et si tu es venu jusqu'ici, tu voudras peut-être me suivre un peu plus loin. Je crois que tu te souviens du nom de la ville, n'est-ce pas? J'aurais besoin d'un type pour m'aider à monter mes projets. En attendant, bois un coup à ma santé et réfléchis. J'attendrai de voir si tu viens. Souviens-toi que l'espoir est une bonne chose, Red. Peut-être ce qu'il y a de mieux, et qu'une bonne chose ne meurt jamais. J'espère que cette lettre te trouvera et te trouvera en bonne santé. Ton ami, Peter Stevens. Je n'ai pas lu cette lettre dans le pré. Une sorte de terreur m'avait pris, le besoin de m'en aller avant qu'on puisse me voir. Pour faire un mauvais jeu de mots, j'avais peur d'être saisi. Je suis rentré et j'ai lu la lettre dans ma chambre, où montait par l'escalier l'odeur du repas des vieux. Du bœuf à rôni, du riz à rôni, des nouilles à rôni. Pariez ce que vous voulez, mais ce soir en Amérique, le dîner des vieux, ceux qui ont un revenu fixe, se termine sûrement en rôni. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai lu la lettre. Ensuite, je me suis pris la tête entre les mains et j'ai pleuré. Avec la lettre, il y avait 20 billets neufs de $50. Et me voilà à l'hôtel Brewster, à nouveau en fuite, du moins techniquement. Infraction à la conditionnelle, voilà mon crime. Et ils ne vont pas barrer les routes pour coincer un pareil criminel. Je me demande que faire. J'ai ce manuscrit, j'ai un petit sac de la taille d'une sacoche de médecin où tient tout ce que je possède. 19 billets de 50, 4 de 10, 1 de 5, $3 et un peu de monnaie. J'ai changé un billet pour acheter ce bloc de papier et un paquet de clopes. Je me demande que faire. Mais en fait, la question ne se pose pas. Il n'y a jamais que 2 choix. S'occuper à vivre ou s'occuper à mourir. D'abord, je vais remettre ce manuscrit dans mon sac. Et puis, je vais boucler le sac, prendre ma veste, descendre et quitter ce nid à punaises. Ensuite, je vais aller dans un bar du centre, poser le billet de 5 devant le barman et lui demander 2 doses de Jack Daniels, une pour moi et une pour Andy Dufresne. À part 1 ou 2 bières, ce sera la première fois que je boirai comme un homme libre depuis 1938. Je donnerai $1 de pourboire au barman et un grand merci. Je sortirai du bar, je remonterai Spring Street vers le terminal des bus et je prendrai un ticket pour El Paso via New York. À El Paso, j'achèterai un ticket pour McNary. Et une fois arrivé là-bas, je crois que j'aurai l'occasion de découvrir si un vieux corbeau dans mon genre peut trouver le moyen de se glisser à travers la frontière jusqu'au Mexique. Bien sûr, je me souviens de la ville. Zihuatanejo. Un trop joli nom pour qu'on l'oublie. Je brûle d'excitation. Je m'en rends compte, tellement que j'arrive à peine à tenir mon crayon entre mes doigts qui tremblent. Seul un homme libre peut ressentir une telle émotion. Un homme qui part pour un long voyage à l'issue incertaine. J'espère qu'Andy est là-bas. J'espère que j'arriverai à passer la frontière. J'espère que je reverrai mon ami pour lui serrer la main. J'espère que le Pacifique est aussi bleu que dans mes rêves. J'espère.